La clameur scientifique.
Assez goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les gueux. Bienvenue à Munich.
Déjà chez nous en France, ça ne va pas très fort depuis quelques années. En l'espace de 4 ans, le budget attribué à la recherche et l'enseignement supérieur a diminué de près de 2 milliards d'euros, alors qu'il a fallu 10 ans à la France pour l'augmenter de 3 milliards depuis 2010. Et c'est sans compter les coupes budgétaires comme celle de 906 millions d'euros l'année dernière. Mais bon, il semblerait que la France préfère consacrer 5% de son PIB à la défense et à l'armement à la place. Résultat ? On fait fuir nos chercheurs vers des pays qui financent mieux la recherche, comme l'Allemagne ou les États-Unis. Du moins, c'était avant le retour de Trump au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, c'est la France qui accueille des chercheurs américains en quête d'asile scientifique. Je ne vous en dis pas plus, puisque Jade reviendra sur la situation aux États-Unis et la mobilisation internationale qu'elle a déclenchée dans sa chronique juste après. Et ce soir, pour nous parler de ces bonnes nouvelles, nous accueillons non pas une, mais deux invités. Armelle Rancillac, neurobiologiste au Collège de France. Bonsoir Armelle.
Bonsoir.
Et Lucille Vessier, ancienne chercheuse en physique quantique, aujourd'hui journaliste scientifique à The Meta News, un journal indépendant qui a pour mission, je cite, « d'informer et rassembler tous les acteurs de la science ». Bonsoir Lucille.
Bonsoir.
Autour de la table pour les interviewer, nous avons Tiffany et Marion. Bonsoir les filles.
Coucou.
Bonsoir.
Vous entendrez également ce soir le témoignage exclusif d'un chercheur franco-américain sur le sujet, interviewé par Luna. Et enfin, on retrouvera aussi Cléo et ses gorgées de science rafraîchissantes, ainsi que Chiara, qui nous a concocté un caps ou pas caps. Commençons sans plus attendre avec la chronique de Jade, histoire de se mettre un peu dans le bain.
Depuis toujours, la science joue un rôle fondamental dans nos sociétés. Elle éclaire nos décisions, guide nos politiques et permet des avancées majeures dans des domaines cruciaux, comme la santé, l'environnement ou encore les nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, cette science est menacée. Elle est menacée par des coupes budgétaires, par des pressions politiques, par la désinformation et la remise en cause de faits pourtant établis par des décennies de recherche. Et face à cette situation, la communauté scientifique ne compte pas rester silencieuse. Aux États-Unis, le mouvement Stand Up for Science a émergé aux réactions aux attaques de l'administration Trump et face aux mesures du département de l'efficacité gouvernementale de Elon Musk. Il y a des licenciements massifs de chercheurs, la suppression de données climatiques, la censure de résultats scientifiques jugés dérangeants. Et tout cela met en péril la liberté académique et plus largement la démocratie elle-même. Car lorsque la science est muselée, c'est notre capacité à comprendre le monde qui s'effondre. Mais cette menace ne se limite pas aux États-Unis, car en Europe aussi, l'université et les recherches scientifiques sont fragilisées par des restrictions budgétaires et des pressions croissantes. C'est pourquoi le 7 mars dernier, des manifestations et rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes d'universités françaises, comme Toulouse. À l'appel de Stand Up for Science France, il y a des chercheurs, des enseignants, des étudiants et des citoyens qui se sont mobilisés pour défendre une science indépendante et libre. Le message est clair, la science n'est pas une opinion. Comme le rappelle Olivier Bernet, un astrophysicien et directeur de recherche au CNRS, faire de la science, c'est faire la différence entre les faits et les opinions. C'est ce qui permet un débat démocratique éclairé. Aux États-Unis, des mots comme femme, race ou trauma sont désormais bannis de certains projets scientifiques, créant un véritable problème pour les chercheurs. Ces termes, pourtant largement utilisés en sciences sociales et médicales, deviennent tabous, entravant la communication et la progression de la recherche. En imposant de telles restrictions, on fragilise la capacité des scientifiques à décrire et analyser la réalité de manière rigoureuse et objective. Il y a également les réseaux sociaux qui représentent un danger croissant pour la science. La désinformation y circule à grande vitesse. Ce phénomène met en péril la confiance que l'on accorde à la science et place de nombreux chercheurs dans des positions délicates. Aujourd'hui, dans plusieurs régions du monde, des scientifiques se sentent menacés, non seulement dans leur crédibilité, mais parfois aussi dans leur sécurité. Face à ces défis, il est urgent de repenser à la manière dont nous protégeons et valorisons le travail scientifique.
Donc tu n'es pas là, mais merci Jade pour cette mise en contexte. Nous allons pouvoir passer au shot aux invités.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
Alors Lucille, nous allons passer au shot à l'invité. Le principe, nous avons 30 secondes et je te pose un max de questions et tu me donnes le max de réponses que tu peux. T'es prête ?
Je vais essayer.
C'est parti. Jus d'orange ou jus de pomme ?
Pomme.
Physique théorique ou expérimentale ?
Expérimentale.
Coq ou âne ?
Anne.
Black bloc ou CRS?
Black bloc.
Montagne ou mer?
Montagne.
Tornade ou ouragan?
Ouragan. J'ai une idée pourquoi.
Brandade ou ragoût?
Ragoût.
Julien...
Mais végétarien.
Ah. Julien Bobroff ou Étienne Klein?
Oulala, Joker.
Cité de la peur ou Astérix Mission Cléopâtre?
Cité de la peur.
Proton ou neutron?
Neutron.
Quelles sont les applications de mémoire quantique des matériaux terres rares non conventionnels? Oh non, zut, les 30 secondes sont terminées. Nous allons devoir passer à la deuxième partie des shots. Merci beaucoup, Lucie.
Très dommage.
Aïe, aïe, aïe.
Et donc, je vais m'attaquer à toi, Armelle, pour ces shots. Est-ce que tu es prête?
Je vais essayer.
Eh ben, c'est parti, alors. Thé ou ricoré?
Thé.
Pastis ou picombière?
Picombière.
Ok, tu avais l'air très sûre de toi. Campus Jussieu ou campus Orsay?
Les deux.
Ah. Pâquerette ou rhododendron?
Pâquerette.
Oh. Crêpe ou galette?
Galette.
Excellent. Collège ou Collège de France?
Collège de France.
Éric ou Ramzy?
Aucun.
Ok, je m'en doutais un peu, mais... Sandwich, triangle ou baguette?
Baguette.
Dernière question, Armelle. Quelle est l'influence des facteurs métaboliques sur l'activité neuronale et le tonus vasculaire dans le noyau préoptique ventro-latéral?
Augmentation de l'activité neuronale et vasodilatation.
Oh wow. Alors c'est ça, génial. C'était très fort. On pensait vraiment qu'on n'aurait pas le temps et pourtant on l'a eu, c'est génial.
On l'a fait.
Merci à vous deux pour ces shots. On espère que ça vous a mis en jambe pour la suite de l'interview. Et d'ailleurs, bah, on peut commencer par vous représenter peut-être. Voilà, Armelle, tu es chercheuse en neurobiologie à l'INSERM au Collège de France et tu as étudié plein de choses. En ce moment, ce sont les mécanismes neuronaux qui régulent notre sommeil, en particulier les réseaux de cellules gliales, dont l'impact est encore assez peu connu sur ce sujet. Je ne me trompe pas là-dessus?
C'est ça. Je suis okay. Dans la communication au niveau des deux types cellulaires qui me sont le plus chers, les neurones et les cellules gliales.
Super. Et donc, tu es aussi autrice de fiction. Et depuis l'émergence de Stand Up for Science, tu es très impliquée dans l'organisation du mouvement en France et à Paris. Et on se demandait comment est-ce que ce mouvement s'est mis en place, pour une première petite question, peut-être, pour te présenter. Et comment tu y as pris part, en fait, aussi?
Bah, en fait, je suis de naturel assez dynamique. Et comme je suis assez active aussi sur les réseaux sociaux et que j'ai vu sur Blue Sky un jour un post qui... essayer justement d'alerter sur tous ces changements qu'on voit actuellement, surtout aux États-Unis, mais aussi poindre en France. Et je me suis dit, ah ben oui, effectivement, ils cherchent à rassembler et à créer une communauté pour réagir. Et j'ai pas du tout réfléchi. Pour moi, c'était vraiment intuitif, instinctif et immédiat. Allez hop, je clique. Oui, je veux faire partie de l'organisation et d'essayer de riposter pour essayer de trouver des actions à mettre en place pour faire en sorte que ça limite les dégâts et que ça ne contamine pas trop la France.
Merci beaucoup, Armelle. Et donc, Lucille, toi, tu es journaliste en presse écrite à The Meta News. Le seul et unique titre de presse à destination des chercheurs et des chercheuses qui présente toutes les semaines l'actualité de la recherche en France. Tu as aussi un doctorat sur les protocoles de mémoire quantique dans des ensembles d'atomes froids et quelques post-docs à ton actif. Donc, le monde de la recherche, tu le connais bien. Puis ensuite, tu bifurques en journalisme scientifique et tu enchaînes avec un mémoire sur l'engagement scientifique. Quelles conséquences sur ces recherches, ses prises de parole en public et sa responsabilité face à la société. Donc, le cœur du mouvement Stand Up for Science en France, il est donc déjà bien intégré dans ta vie professionnelle?
Oui, tout à fait. Bah, déjà, à The Meta News, on parle de l'actualité dans le monde de la recherche, que ce soit au niveau des pratiques. Donc, on va parler, par exemple, parfois de fraude scientifique ou de sciences ouvertes. Et on va aussi parler des politiques de recherche, parce que c'est aussi fondamental. Et donc, du coup... au moment de l'investiture de Trump, on s'est replongé déjà sur ce qu'il avait fait pendant son premier mandat. Et donc, du coup, j'avais fait un papier là-dessus sur des chercheuses qui avaient listé, en fait, toutes les actions anti-sciences et notamment sur les questions de santé et sur les questions d'environnement, de climat, sur les agences fédérales. Donc, c'est-à-dire l'équivalent de l'ANSES en France, de l'Office pour la biodiversité ce genre de choses de l'ADEME, qui sont aussi attaquées en France d'ailleurs au passage. Et voilà, donc c'est des sujets qu'on suit. Et évidemment, on a été à la manifestation Stand Up for Science pour suivre, pour écouter tout ce que les chercheurs et les chercheuses avaient à dire sur le sujet.
Et d'ailleurs, en parlant de la manifestation, peut-être que ça peut être bien de rappeler en fait quel était aussi le but, on va dire, de cette manifestation. Donc, tu as dit que les chercheurs expriment leur peur, leurs inquiétudes sur ce qui se passe aux États-Unis.
Oui, c'est parti d'une volonté de soutien contre les actions qui se passaient aux États-Unis contre les chercheurs. Mais pas que aux États-Unis, parce qu'en Argentine, la situation est également catastrophique. Et il y a d'autres pays aussi qui souffrent beaucoup. C'est notamment pour ça qu'il y a un programme PAUSE, même, qui a été mis en place pour récupérer un peu tous les scientifiques en exil. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de solutions qui peuvent être mises en place pour permettre à ces chercheurs d'être tous réintégrés en France. Et il faut essayer de développer d'autres solutions.
Oui, donc programme PAUSE, pour préciser aux auditeurs et auditrices, c'est donc un programme qui cherche
Qui permet de donner des financements, mais bon, il faut remplir toutes les conditions exigées par ce programme, pour financer du coup la recherche de ces nouveaux chercheurs qui puissent venir exercer en France. Mais en France, voilà, le problème, c'est que les postes sont déjà saturés, il n'y a pas assez de budget pour que les jeunes puissent déjà eux-mêmes en France puissent accéder à des postes intéressants. Donc vouloir accueillir tous les chercheurs étrangers, aussi bons et excellents soient-ils, il y a une limite dans les capacités réalistes qui sont pas toujours possibles de mettre en action. Donc le programme PAUSE, quand même, l'année dernière, en 2024, il a permis d'accueillir 170 chercheurs étrangers, donc c'est quand même important. Le problème, c'est que il y a des restrictions budgétaires qui impacte aussi le programme PAUSE. Et cette année, c'est que 70 chercheurs étrangers qui pourront être accueillis. Donc 70, vu tous ceux qui sont licenciés en ce moment aux États-Unis, et il n'y a pas que les États-Unis sur la planète, ça ne fait pas assez.
Oui, c'est des capacités limitées. On va revenir très rapidement justement sur la situation de la recherche en France et l'ensemble de ce qui se passe. Mais ça pose justement la question, le mouvement Stand Up for Science, est-ce qu'il intervient ou il arrive en réponse, en soutien aux chercheurs et aux chercheuses aux États-Unis, à vos collègues aux États-Unis, ou est-ce que aussi il cristallise des mouvements et des résistances qui existent déjà en France sur des problématiques dans le monde de la recherche?
Effectivement, ça a été le premier déclic. On va être là en soutien. Mais pourquoi on a réagi si vite aussi? C'est parce qu'on voit déjà en France poindre beaucoup d'éléments qui nous disent que on va vers la même tendance. Et donc, si on ne réagit pas maintenant en France, qu'est-ce qui va se passer demain?
Oui, pardon, je voulais ajouter, il y a eu les coupes budgétaires au début de l'année. Il y a eu aussi l'affaire des Key Labs. Alors, peut-être que tous les auditeurs n'ont pas entendu parler
l'affaire des Key Labs.
Donc, en fait, c'est le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, qui emploie beaucoup de chercheurs et chercheuses qui sont consacrés à 100% à la recherche dans toutes les disciplines. Donc, son PDG, Antoine Petit, a annoncé qu'il financerait en particulier certains laboratoires.
25%.
Ouais, voilà, un quart des laboratoires qui seraient plus financés, et surtout qui auraient plus de ressources humaines. Voilà, que les ressources en gros seraient concentrées dans ces laboratoires.
Ce qui... Bon, à savoir, ils ne voulaient privilégier que les plus riches.
D'accord. Bon, la liste n'est pas apparue officiellement à ce moment-là. Apparemment, ça a l'air d'être enterré cette idée. Mais voilà. Donc les chercheurs étaient déjà mobilisés en fait au début de l'année sur ces sujets. Et ce qui est marrant en fait, c'est quand on a écrit sur cette journée de mobilisation Stand Up for Science du 7 mars. En fait, on a remarqué que dans les autres pays d'Europe, il y avait pas eu de mobilisation équivalente du tout, en fait. Cette mobilisation Stand Up for Science, elle a été aux États-Unis, en France et un peu dans d'autres pays, mais c'était vraiment la France sur la carte du monde. Les États-Unis et la France se démarquaient vraiment. Donc voilà, il y a eu vraiment un élan en France des chercheurs.
Oui, dans un nombre vraiment important de villes, les grandes villes de France, mais également des plus petites. Hein. J'ai fait la liste, il y a Aix-en-Provence, Amiens, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Compiègne, Grenoble, La Roche-sur-Yon. Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Nouméa, Paris, Reims, Rennes, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse et Tours. Donc c'est vraiment une mobilisation nationale.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, quand on connaît aussi les... on avait fait un épisode sur la LPR il y a quelques années et tout ça. Donc ça aussi, ça avait pas mal mobilisé, mais j'ai l'impression que là, la visibilité de ce mouvement est beaucoup plus importante que des chercheurs se mobilisent. J'ai l'impression, personnellement, que ça n'a jamais été autant visible. Du coup, est-ce que c'est parce que justement ça résonne avec toutes les peurs qu'il y a autour de Trump ou quoi? Mais est-ce que c'est un ressenti qui est valide?
D'analyse de journaliste, c'est quand même un sujet qui est beaucoup plus consensuel. Autant quand on se mobilise contre une mesure politique, on peut y aller pour et les contre, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Là, défendre la science, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus fédérateur.
Ouais. Et je pense que c'est la fin de la première partie de l'interview. On se retrouve dans quelques minutes après la pause musicale. Retour en direct sur l'Happy Hour Scientifique sur 93.9 FM.
L'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Vous venez d'écouter The World is Going Up in Flames by Charles Bradley. Nous accueillons ce soir Armelle, une neurobiologiste au Collège de France, et Lucille, ancienne chercheuse en physique quantique et journaliste à The Meta News. Avant la reprise de l'interview, nous allons écouter le témoignage d'un chercheur franco-états-unien.
Oula, il s'en passe des choses dans le domaine de la recherche aux États-Unis. Pour y voir plus clair, je suis allée demander comment les choses se passaient concrètement quand on est chercheur là-bas. Mon interviewé a cependant préféré rester anonyme. Direction les États-Unis, en visioconférence.
Je suis professeur de mathématiques appliquées au Maryland. Je suis aux États-Unis depuis 2008. Je fais de la recherche en mathématiques sur les équations dérivées partielles, principalement, avec des applications en biologie et en physique.
Alors, comment s'organise la recherche aux États-Unis ? Déjà, il y a les universités privées et publiques. Les universités publiques, aussi appelées universités d'État, sont financées par les États dans lesquels elles se trouvent, comme le Texas, par exemple. Mais le financement de la recherche est partagé avec le gouvernement fédéral, c'est-à-dire le gouvernement de tous les États-Unis.
Et c'est cet arrangement-là qui est un peu remis en cause ces derniers temps par des annonces du gouvernement qui voudraient réduire de façon vraiment significative la contribution du gouvernement fédéral au financement de projets scientifiques. Et là, les budgets ont déjà été décidés. C'est décidé a priori par le Congrès. C'est pas vraiment à ce niveau-là. C'est plutôt au niveau de l'agence, donc au niveau de l'exécutif, ce qui est vraiment donc l'administration autour du président, qui voudrait remettre en cause la façon dont le financement est calculé, en fait, pour les projets de recherche. Sur le plus long terme, il y a un désir de changer vraiment la façon dont le financement fonctionne. Et si c'est fait, ça va être vraiment difficile pour les universités de prendre le relais et de continuer à financer la recherche telle qu'elle a été financée, encore une fois, depuis 70 ans. Après, il faudrait rajouter à tout ça que toute la recherche aux États-Unis, toute la recherche scientifique, je parle ici de la recherche scientifique parce que je connais moins le reste, toute la recherche n'est pas faite à l'université. Il y a d'autres endroits où la recherche est faite. Par exemple, NIH, qui est donc une agence gouvernementale, subventionne la recherche qui est faite dans les universités, mais ils ont aussi leur propre laboratoire au sein duquel ils font de la recherche. Et là, il y a des scientifiques qui sont vraiment employés directement par le gouvernement fédéral. Ce qui n'est pas le cas dans les universités. Dans les universités, on n'est pas employé du gouvernement fédéral, on est employé de l'université.
Et c'est pour ça qu'on retrouve plus d'effets immédiats dans les agences fédérales comme la NIH, the National Institute of Health, ou encore dans la National Oceanic and Atmospheric Administration, que dans les universités. C'est dans ce type de structure que, dès maintenant, des projets de recherche sont arrêtés et des chercheurs et chercheuses licenciés.
Les annonces qui ont été faites sur les projets de recherche qui avaient été suspendus, c'est parce que il y a eu une décision d'annuler certains contrats de recherche sur des thématiques bien précises, en particulier les thématiques, tout ce qui avait lié à la diversité, par exemple.
Le gouvernement fédéral a aussi stoppé le financement de certains projets d'université, les arrêtant de fait.
Beaucoup des gens qui travaillent sur ces contrats sont des employés de l'université qui donc, sont toujours là, juste n'ont plus les moyens de faire leur recherche. Et il peut y avoir aussi des fois, avec l'argent du gouvernement fédéral, on peut des fois employer des techniciens ou des gens pour travailler sur le projet qui, eux, par contre, sans l'argent fédéral, n'ont plus de travail. Et donc, pour le moment, je dirais qu'il y a deux aspects un peu là. Il y a deux choses qui changent. Il y a d'un côté une remise en cause du financement de la recherche universitaire par le gouvernement fédéral. Donc, une volonté de vraiment changer la façon dont le système fonctionne depuis très longtemps. Et puis, d'un autre côté, il y a eu un effet plus politique sur certaines thématiques de recherche, donc effectivement le changement climatique ou la diversité, où là, il y a eu une volonté beaucoup plus agressive de terminer, de suspendre certains projets de recherche, et dans certains cas, donc, comme je disais, de fermer des unités de recherche et donc de licencier des scientifiques qui travaillaient pour le gouvernement, mais sur des thématiques bien précises qui n'ont plus... C'est pas la première fois qu'il y a des réductions des budgets de la recherche, mais là, en tout cas, les annonces qui ont été faites, les chiffres sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on parle de réductions qui rendraient juste impossible la continuation de plein de travaux de recherche et qui remettent vraiment en cause le financement du système de recherche aux États-Unis. Le cycle est tel que là au mois de fin mars, les campagnes de recrutement sont à peu près terminées. Donc c'est l'année prochaine qu'on verra ce qui va se passer, je pense. C'est l'année prochaine avec tous les gens, tous les thésards qui vont finir leur thèse, tous les gens qui vont finir leur postdoc, qui vont chercher des emplois aux États-Unis. C'est là qu'on verra si effectivement ces gens-là qui auront plus de mal à trouver des emplois à l'université vont décider d'aller travailler en Europe ou ailleurs.
Bon, Au final, j'ai surtout compris que même aux États-Unis, tout le monde est encore un peu dans le flou. À voir comment ça évolue.
Merci beaucoup Luna pour ton interview slash reportage. Et ben dis donc, ça ne sent pas bon du tout. Je pense qu'on va pouvoir passer aux réactions de tout le monde avec la suite de l'interview.
Oui, absolument. Lucille Armel, justement, est-ce que ce reportage, il fait écho à des choses que vous avez déjà entendues via peut-être des collègues outre-Atlantique ou alors de personnes, le ressenti de personnes qui font partie du mouvement Stand Up for Science?
Des scientifiques, pas trop, parce qu'ils ont peur de parler. Maintenant, ils ne prennent plus la parole. Donc là, c'est compliqué d'avoir une prise de température sur site.
Ouais, je peux témoigner juste sur un point. Il y a eu un papier, une pétition qui est en ligne pour, contre la fermeture d'une équipe de recherche ONIST. Donc c'est un institut national sur les mesures et les standards. C'est un peu de la métrologie, donc c'est de la physique assez fondamentale, quoi. C'est pas du tout un truc qui apparaît comme woke au départ. Et pourtant, leur équipe est menacée d'être supprimée. Et donc moi, j'ai contacté les chercheurs pour les interviewer, et en fait ils ne veulent pas répondre, ils m'ont dit non, on est autorisé à parler que de science, et donc voilà, je pense qu'ils ont peur de parler.
Mais même parler en off, c'est tendu, peut-être même pour eux d'en parler, je parle pour peut-être plus Armel, parce que toi Lucille, du coup t'as la posture de la journaliste, donc c'est peut-être différent, mais...
Moi j'ai pas trop de collègues aux États-Unis, donc je peux pas le dire.
Okay.
Mais c'est vrai qu'on voit des images même de congrès avec des posters, des allées de posters totalement vides, parce que les chercheurs n'ont tout d'un coup plus les moyens d'aller au congrès. Ça c'est ça fait un peu, c'est viral sur internet, on voit vite quand même les conséquences directes et concrètes. Voilà, c'est fini la communication sur certains sujets. Et puis dans l'actualité, on voit bien toutes les pages web, les 8000 pages qui sont supprimées comme ça du jour au lendemain. C'est très inquiétant parce que nous, on travaille beaucoup avec des bases de données. On se dit, si du jour au lendemain, ces bases de données disparaissent, quelles contre-mesures en Europe on pourrait développer pour essayer de sauvegarder, de préserver et de continuer à survivre dans ce monde qui, demain, ne ressemblera plus du tout à ce qu'il était hier.
Pour préciser, ce sont des bases de données qui sont américaines et qui sont utilisées par la recherche en France.
Exactement.
Il y en a une d'ailleurs, il y a un observatoire à Hawaï. Il y a eu un papier dans Mediapart cette semaine là-dessus. C'est un observatoire qui mesure le taux de CO2 dans l'atmosphère depuis les années 1960, il me semble. Et ça a été vraiment un instrument clé pour montrer l'ampleur du changement climatique. Et voilà, évidemment, l'administration Trump veut le fermer. Et ça serait très très dommageable pour la recherche.
Absolument.
Et comme tu le disais tout à l'heure aussi, pour rebondir aussi sur un aspect qui est montré dans le reportage, c'est que on voit que c'est beaucoup des agences fédérales qui sont les premières cibles en fait, parce que forcément plus vulnérables. Et tu en parlais un petit peu, Lucille, concernant la recherche en France, que ça pouvait concerner l'ADEME, l'Office de la biodiversité, tout ça. Est-ce que c'est une situation vraiment où on pourrait avoir peur de ça, si jamais ça donne des idées, on va dire, sachant comme tu disais, elles sont déjà un peu attaquées verbalement déjà, et elles dérangent un peu, quoi.
Lucie, je t'en prie.
Oui, je sais pas, je ne lis pas dans l'avenir, oui. Je ne prédis pas l'avenir, mais en effet, il y a des choses qui sont inquiétantes. Récemment, j'ai interviewé Philippe Grandcola, donc qui est un chercheur CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle sur la biodiversité, qui alertait là-dessus sur le fait qu'il y a des menaces verbales, d'hommes politiques, d'hommes et femmes politiques. Plutôt d'un certain bord de l'échiquier politique, qui disent qu'il faut arrêter de financer ces agences-là. C'est des choses qui sont votées par le Parlement. On ne peut pas exclure que ça arrive un jour en France.
Et du coup, est-ce que les changements aux États-Unis, pareil, on en a déjà un peu parlé dans la première partie, est-ce que ça peut impacter la recherche en France? Donc on a parlé de l'accueil des chercheurs, notamment... Pardon, je me suis trompée de question. L'impact de la recherche en France, c'est aussi, ça pose plusieurs questions, notamment la question, comme tu disais, de quels chercheurs on va accueillir, sur quels critères, critères de à quel point ils sont brillants, brillantes, à quel point c'est un domaine qui est utile pour la recherche en France, alors que d'un point de vue clair, comme tu disais, en fait, on n'a déjà pas les moyens de proposer des carrières à des chercheurs qu'on a en France. Et est-ce que ça risque pas de créer un peu une hiérarchie au sein de la recherche entre ceux qui méritent quelque part d'avoir accès à une carrière et
c'est
pas
ça,
les
mais
autres,
bon,
quoi.
C'est plus facile d'être méritant quand on est plus âgé, qu'on a eu le temps de faire ses preuves et d'avoir une vraie carrière, que quand on est jeune et qu'on sort de ses études, donc on n'a jamais vraiment fini ses études dans l'académie. Mais c'est sûr qu'en France, on voit déjà que le poste de statutaire, il commence à être mis en cause. On met en place des chaires juniors, c'est-à-dire des CDD. Or, pour faire une recherche vraiment de fond et qui soit de qualité, il faut avoir du temps. Parce que ça met beaucoup de temps de développer des protocoles pour bien étudier nos sujets d'études ou des nouvelles techniques. Et si on ne donne pas le temps à la recherche de faire une recherche de qualité, on nuit aux résultats. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que les politiques, ils ne l'entendent pas, ils ne le comprennent pas. Le mot d'ordre, c'est « publish or perish ». Si jamais on n'a pas une certaine productivité, on n'est pas reconnu en tant que tel. Et ça, c'est dommage et c'est des tendances du coup, qui nous font penser que oui, demain, éventuellement, on pourrait connaître ce qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis parce qu'il y a les prémices.
Juste aussi sur l'aspect type de poste, ce qui était dit dans le reportage, et j'ai trouvé ça important de le souligner, c'est qu'aux États-Unis, ils n'ont pas la même stabilité que les chercheurs ont en France. La plupart des chercheurs sont fonctionnaires en France et ne peuvent pas être virés comme ça du jour au lendemain. Aux États-Unis, il y a beaucoup de personnel qui sont payés sur des contrats. Et donc, du coup, ça donne...
C'est pour ça qu'en France, on veut faire pareil qu'aux États-Unis. Oui. On veut faire des petits contrats, comme ça, on a l'impression de mieux contrôler la recherche. Oui. Mais c'est juste une méconnaissance totale de comment ça fonctionne, la recherche. Et c'est vraiment une richesse incroyable qu'a la France de pouvoir avoir des chercheurs statutaires et fonctionnaires, parce que c'est comme ça qu'on peut être le plus optimum, ne pas avoir à stresser pour son salaire le lendemain, mais se donner à fond dans la recherche. C'est capital, c'est important. Et ça, il faut le souligner. Je ne connais aucun chercheur qui travaille moins que les horaires qu'il doit faire. Donc, à partir du moment où on sait ça, il faut se détendre et il faut avoir confiance en la recherche et en l'avenir.
Oui, mais effectivement, c'était un premier pas dans la porte, pied dans la porte qu'il y avait eu avec la LPR, justement, ces histoires de précarisation de la recherche.
C'est vrai que sans stabilité dans ton travail, tu ne peux pas avoir la même motivation, la même dédication.
Implication,
dévouement, un petit mélange. Mais alors justement, est-ce que ce positionnement des États-Unis et ce qui se passe actuellement aux États-Unis peut éventuellement produire une réaction positive avec peut-être des financements qui se débloquent pour le monde de la recherche en France et en Europe? Est-ce que c'est un peu naïf ou est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un basculement et qu'il y ait une prise de conscience qu'il faut peut-être réorienter un petit peu ce qui se passe ici?
Si on regarde les budgets de la recherche en 20 ans, si on tient compte de l'inflation et qu'on compense un petit peu ces changements naturels qui ont lieu avec le temps, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, je crois qu'il a diminué de 1,5 milliard. Donc, en plus, en ce moment, maintenant, on est en crise économique en France. Donc déjà, si on pouvait peut-être arrêter de le diminuer, ce serait déjà un effort...
Et éviter les coupes aussi, parce que même quand ils ne diminuent pas, il y a quand même des coupes. Donc
Et puis arrêter de revenir sur les lois qui sont votées il y a un ou deux, trois, quatre ans, là, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, elle est déjà suspendue avant même qu'elle arrive à son terme. On a des politiques à extrêmement court terme qu'on n'arrive pas, du coup, à mettre en œuvre. Et sans vision à long terme, effectivement, ça fait très peur, parce qu'on se dit, effectivement, demain, tout peut basculer, parce qu'en fait, rien n'est acquis, même les lois, on ne les écoute pas, on ne les suit pas.
Oui.
Donc, c'est inquiétant.
Ça fait peur.
Oui, et puis, il y avait... Je suis en train d'oublier la question que je voulais poser. Il y avait la question de... Pardon ? Tu voulais poser une question ?
Non, vas-y, je t'en prie, je te laisse.
Non, vas-y.
C'est ce qu'on voulait vous demander aussi, en dehors de... des lois qui peuvent changer aussi ou de quels impacts ça peut avoir sur la stratégie en France sur le milieu de la recherche. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, comment est-ce que ça impacte concrètement ce qui se passe en France. Donc typiquement, on parlait des bases de données. Donc, forcément, s'il se passe quelque chose sur les bases de données américaines qui sont utilisées par les recherches en France, forcément ça impacte. Mais est-ce qu'il y a des liens comme ça sur les données qui sont accessibles, sur les collaborations qui sont possibles? Comment est-ce que tout ça, ça impacte ce qui se passe ici?
Il y a aussi la question des revues scientifiques. Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore creusée et qui nous a été remontée par des lecteurs et des lectrices. En fait, donc les revues scientifiques, c'est là où sont publiés les résultats de la recherche. Et il y a beaucoup de grosses maisons d'édition scientifiques qui sont aux États-Unis. Voilà. Donc du coup, comment ça va se passer? Est-ce que elles vont être plus frileuses pour publier certains résultats? Voilà. La question se pose notamment, parce que c'est comme ça que sont diffusés les résultats de la recherche. Donc ça aurait un gros impact et partout dans le monde.
Au niveau de l'Europe, on est en train d'essayer de développer des alternatives justement pour avoir d'autres sites et avoir les bases de données redondantes pour l'instant avec les États-Unis, pour que si jamais tout d'un coup il n'y ait plus ces bases de données, on ait eu le temps de sauvegarder et d'avoir des alternatives. Parce que PubMed, donc la base de données qu'on consulte vraiment régulièrement en tant que scientifique, elle est vraiment vitale. Et si du jour au lendemain, elle s'arrêtait de fonctionner, pour la vie des scientifiques, ce serait vraiment très problématique. Et c'est un risque réel. Bon, au-delà du fait qu'il y ait toutes les publications sur les femmes, les minorités, les inégalités, le changement climatique qui disparaissent. Mais bon, ça, hein, est-ce vraiment important?
Bien sûr. Nous allons clore cette deuxième partie de l'émission avec une petite pause musicale. On vous laisse avec American Idiot de Green Day.
Under the new media, hey, can you hear the sound of hysteria? The subliminal mindfuck America. Agenda. Now everybody do the propaganda and sing along at the edge of paranoia.
Direct sur l'Happy Hour scientifique. Vous venez d'écouter American Idiot de Green Day.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Nous accueillons ce soir Armelle, neurobiologiste au Collège de France, et Lucille, ancienne chercheuse en physique quantique et journaliste à The Meta News. Nous allons reprendre avec la troisième partie de l'interview avec Marion et Tiffany.
Oui, alors pour reprendre un peu sur ce sur quoi on s'était laissé, effectivement, on n'a pas beaucoup d'espoir à l'heure actuelle, justement, quand on voit la tendance qui a à couper le budget depuis plusieurs années. Mais est-ce que, quand même, on ne se trouverait pas justement à un moment de bascule où, si jamais il y a quelque chose de positif qui sort de tout ça, ce ne serait pas le moment de faire de la recherche ce qu'elle est censée être et qu'elle est peut-être qu'elle a du mal à faire justement avec ses problèmes de financement, c'est-à-dire quelque chose qui peut aider à faire face aux enjeux climatiques, démocratiques et sociétaux. Est-ce que c'est pas justement ça que les chercheurs dans Stand Up for Science essayent de remettre au centre de la table au moment où tout se rejoue quelque part
Ben effectivement, je pense que l'image des scientifiques, elle est quand même pas si dorée que ça. Souvent, on est associé voilà, à des gens qui dilapident l'argent du contribuable, à des fonctionnaires paresseux. Je pense que le grand public a un petit peu du mal à comprendre l'engagement, les motivations, la passion des chercheurs et à quel point ils travaillent et ils trouvent régulièrement. Donc, c'est aussi une occasion, au cours de ce mouvement, d'essayer de mieux expliquer ce à quoi sert la recherche. C'est vraiment un bien pour tout le monde, toute la planète, au-delà des nations. Et il faut absolument préserver le monde de la recherche, essayer de le sauvegarder, même si possible, espérons le développer et l'encourager, pour justement que ce bien commun puisse profiter à tous, parce que sans recherche, c'est un petit peu la mort d'une civilisation.
Ouais, désolée de vous laisser
là-dessus. C'est dur de rebondir là-dessus.
Oui, effectivement, mais alors...
Il y avait juste un chiffre sur la confiance. En fait, les Français ont pas mal confiance dans les sciences. C'est à peu près 80% des gens qui ont confiance dans les scientifiques. Après, ils ont pas forcément une bonne image de la science. L'idée qu'elle peut avoir des impacts négatifs et tout ça. Mais dans les scientifiques, ils ont confiance en eux, donc c'est positif.
C'est plutôt une bonne chose.
C'est un bon début.
Mais alors du coup, qu'est-ce que, pour vous, l'une et l'autre, qu'est-ce qu'est la place des chercheurs et des chercheuses dans la société, la place de la recherche, quel est le rôle dans la société? Grande question aussi.
Ben, moi, à mon échelle, j'essaye de faire évoluer les connaissances. Donc c'est pour ça que je cherche, parce que je veux mieux comprendre pour essayer d'identifier des nouveaux mécanismes et des nouvelles solutions pour que demain la vie de chacun soit meilleure. Donc j'œuvre vraiment pour le bien commun de tous et c'est pour ça que je trouve ça fondamental. Après, bon, ben, c'est peut-être pas forcément le point de vue de tout le monde, mais...
Ouais, je pense que chaque chercheur a un point de vue différent sur la question. Être chercheur, c'est avant tout un métier. Il y en a qui rappellent que c'est une façon aussi de gagner sa vie et que, on peut aussi évoluer sur ces sujets de recherche en fonction de, des attentes de la société. Là, il y en a beaucoup en ce moment qui se remettent en question, qui disent, mon sujet de recherche, il est peut-être pas... il correspond peut-être pas aux attentes et à ce dont on a besoin alors qu'on est en pleine crise climatique. Donc il y a pas mal de chercheurs qui réfléchissent à la question et on parlait de s'engager pour défendre les sciences. En fait, juste pour refaire un petit peu d'histoire, il y a eu un mouvement dans les années 1930, au mouvement du Nouveau Front Populaire et tout ça. Il y avait pas mal de chercheurs, notamment des physiciens, qui étaient encartés au Parti communiste et avec cette idée que les sciences allaient apporter le progrès social. C'est une idée qui a perduré, années 70 et peut-être encore, il y a peut-être 10-20 ans, mais qui était vraiment en perte de vitesse, notamment avec ces questions de crise climatique, de changement climatique. Et là, peut-être que ce mouvement Stand Up for Science, c'est une manière de remettre un peu tout le monde d'accord sur le fait que, il y a des choses peut-être à faire évoluer, mais en fait, il faut quand même garder la recherche parce qu'elle est indispensable, en fait, sur plein de questions. Déjà pour savoir, pour connaître, pour ensuite pouvoir discuter des choses. De ce qu'on veut faire dans la société.
Oui, mais c'est sûr que du coup, dans la place du chercheur, il y a aussi l'idée de communiquer sur ses résultats, d'éclairer la société, entre guillemets, avec ses connaissances pour ensuite guider en fait, les politiques qui vont prendre en compte ou pas, malheureusement, ces éclairages. Et où du coup, la question du militantisme dans la science, là tu parlais de physiciens qui étaient encartés au Parti communiste, j'ai l'impression que peut-être dans un ensemble... dans la vision globale de la société, militantisme et recherche, c'est souvent vu comme des choses qui sont opposées. Est-ce que, à votre avis, c'est justifié et d'où ça peut venir, en fait? Comment ça s'est construit, cette idée que les chercheurs ne pouvaient pas exprimer d'opinion politique?
Déjà, il faut voir que les capacités qu'on développe pour être chercheur sont à l'opposé des qualités qu'il faut développer pour être un communicant. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont beaucoup de réticence à aller dans les médias et à parler, parce que c'est à l'encontre de ce que je peux dire de la vraie science. Parce qu'il va falloir improviser, on va pas pouvoir revenir et vraiment choisir le bon mot qu'il faudrait dans la bonne phrase pour la bonne argumentation. Ça va pas être un discours parfait. Or le chercheur, quand il écrit, quand il s'exprime, il vise la perfection. Et donc c'est en ça que les chercheurs ont beaucoup de réticence à aller vers les médias parce que ça va être déformé. Même eux ne vont pas arriver à bien s'exprimer. Et du coup, si ce n'est pas le reflet de ce qu'ils veulent, ce n'est pas maîtrisé, ce n'est pas quelque chose avec laquelle ils sont à l'aise. Mais moi, je trouve ça dommage. Et d'autant plus en tant que femme, je mets souvent beaucoup de barrières. Donc j'essaye de briser toutes ces barrières. Et j'essaye de me dire, non mais moi, ce que je vois au laboratoire, c'est vraiment incroyable, c'est génial. J'ai envie de partager ma passion, j'ai envie de le communiquer. Alors certes, ce ne sera pas parfait. Ce ne sera jamais parfait. Mais il faut que j'essaye, parce qu'il faut que les autres sachent. Et puis c'est la base d'une civilisation, je pense, de communiquer, d'échanger. Moi, je suis assez sociale. Et du coup, j'ai envie de dire, bon, allez, c'est pas grave. Banco, on essaye, on verra ce qu'il en reste.
Mais du coup, est-ce que tu te mets des limites? Du coup, je commence à faire un peu cette question. C'est
formation professionnelle journaliste.
Est-ce que tu te mets des limites à... Bon, là, c'est juste mes recherches, mes résultats. Et là, je commence à dire ce qu'il faudrait faire ou voilà.
Pour nous aider à faire passer nos messages. Donc, le 3 avril, le matin, ça va commencer par un rassemblement Place Jussieu pour faire une marche des sciences. Ensuite, vers midi, il y aura un village des sciences, Place des Innocents, suivi d'une conférence de presse. Mais là, le lieu reste encore à être confirmé.
On vous attend nombreux les étudiants, j'espère que vous nous écoutez et que vous serez là le jour même.
On sera là, on sera là.
Et n'hésitez pas à suivre toute l'actualité sur Blue Sky, hein. N'allez plus du tout sur X, je compte sur vous.
On a peut-être nos propres petites mises à jour à faire pour l'Happy Hour scientifique.
Sur Blue Sky bientôt.
Avec tous les hashtags, hein, Stand Up for Science, le printemps des campus, hashtag printemps des sciences, hashtag Get Up Stand Up, où nous sommes les sciences.
Super, merci beaucoup Lucille et Armel, c'était super intéressant et merci à vous Marion et Tiffany. Donc le thème de l'émission est assez atypique parce qu'on a parlé de l'état de la recherche et pas d'un sujet de recherche en particulier. Et bon, nous sommes avant tout des vulgarisateurs scientifiques, donc rien de tel que de parler des dernières actualités scientifiques avec Cléo et ses gorgées de science.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça ?
Alors, vous prendrez bien une petite gorgée d'actualité scientifique. Au programme ces derniers jours, l'autorisation du cannabis thérapeutique en France a franchi un pas. Oui, l'expérimentation menée auprès des patients a été prolongée, pour la deuxième fois, jusqu'en mars 2026. Depuis 4 ans, 3000 personnes bénéficient de médicaments à base de cannabis pour soulager les douleurs principalement. Niveau réglementation, les textes encadrant leur autorisation dans le cadre médical viennent tout juste d'être notifiés à la Commission européenne et ça traînait depuis un moment.
Alors, est-ce que l'accès au cannabis médical en France va se généraliser ?
Pour l'instant, les textes en question sont en train d'être examinés par l'exécutif européen, mais cela montre que la France est en train de finaliser un cadre réglementaire plus stable à ce sujet en tout cas. Une fois terminé, les résultats de l'étude devraient permettre d'éclairer la décision et de se diriger vers une potentielle commercialisation de traitements à base de cannabis. Sont-ils une alternative efficace ? Enfin, sur la question, la Haute Autorité de Santé investiguera sur l'intérêt thérapeutique dans les prochains mois. C'est une nouvelle étape.
Et niveau alimentation, quelles sont les nouvelles ?
L'ANSES recommande de lever le pied sur la consommation de soja. Le problème ici, c'est la présence de phytoestrogènes contenus naturellement dans la plante. Appelées isoflavones, ces substances végétales proches des hormones féminines risqueraient d'interférer avec le système endocrinien, si elles sont consommées en trop grosse quantité, bien sûr. D'après l'enquête, bon nombre d'enfants et d'adultes dépassent les seuils au-dessus desquels la teneur en isoflavones est tolérée. Une concentration amplifiée par les techniques de culture et certains procédés de fabrication. L'ANSES recommande donc aux industriels de contrôler les concentrations de ces phytoestrogènes. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Alors déjà, on prête attention à la présence et surtout à la concentration de ces perturbateurs endocriniens dans nos placards. Ensuite, pour éviter la surconsommation, l'Agence sanitaire française recommande de ne pas servir ce type d'aliment en restauration collective. Plus de soja à la cantine donc. Dernière actu, puisque l'on a bien parlé des politiques qui défient la confiance envers les sciences dans cette émission, jetons un œil aux résultats de l'enquête sur le rapport des citoyens à la science et aux médias, publiée la semaine dernière. Ce baromètre a été développé par Universcience. Niveau sujet d'intérêt, la population a moins d'attrait pour les thématiques scientifiques que l'année dernière. Elle arrive après les sujets sociétaux et politiques. Mais leur image reste plutôt bonne puisque 78% des répondeurs affirment qu'une information validée scientifiquement a plus de valeur.
Et chez les jeunes alors ?
Alors de manière surprenante, chez les 18-24 ans, les sciences sociales ont toujours la vie dure. La majorité d'entre eux jugent des disciplines comme la chimie et la biologie plus scientifiques entre guillemets que la sociologie. Niveau source, pour s'informer sur les sujets, les Français se réfèrent aux documentaires, aux sites spécialisés, aux expos scientifiques. Chez les jeunes, on n'échappe pas à la montée de l'IA, évidemment. 20% d'entre eux l'utilisent pour s'informer sur l'actualité liée aux sciences. L'Happy Hour ne figure pas encore comme source d'information, mais on l'espère pour le baromètre de l'année prochaine.
Super, merci Cléo. Vous pouvez aussi bien évidemment vous renseigner sur des sujets d'actualité scientifique sur la chaîne Twitch de l'Octopus Journal qui s'appelle Encre. Nous faisons des lives toutes les deux semaines, et le prochain portera sur la physique des océans lundi prochain. Et pour finir en beauté, rien de tel qu'un petit caps ou pas caps concocté par Chiara.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Bonjour à tous et à toutes. Donc après des sujets, ma foi, fort inquiétants, très très stressants, je vous propose un petit jeu. Donc j'ai repris un concept du Burger Quiz, j'ai rien inventé de sensationnel, mais du coup je vous propose un petit quiz. Je vous donne des citations et vous me dites si c'est un ou une scientifique, un ou une militant, ou les deux. Donc scientifique, militant, ou les deux. Donc ma première citation est la suivante. La liberté intellectuelle est la seule garantie d'une approche scientifique et démocratique de la politique, du développement économique et de la culture. À votre avis, quel type de personne aurait pu dire quelque chose comme ça ? Un scientifique, un militant ou les deux ?
Un militant.
Ah, moi j'aurais dit scientifique.
Les deux.
Et c'est effectivement les deux. C'est effectivement les deux. À votre avis, c'est un scientifique qui est aussi un militant. Il s'appelle Andrei. Alors, je vais avoir du mal à le prononcer. Andrei Dmitrievitch Sakharov. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous le connaissez ?
Bien sûr.
Ça me dit un truc.
Du coup, il est scientifique et militant aussi au XXe siècle. Et il est notamment militant contre la course aux armements nucléaires. Alors que devinez à quoi il a participé comme invention scientifique ?
La bombe.
L'une des premières bombes nucléaires. Donc on dirait Elon Musk qui alerte sur l'IA ou Zuckerberg qui alerte sur les dangers que représentent les réseaux sociaux. Enfin, en fait, il manque plus que Trump qui alerte des risques pour la peau quand on met trop de fond de teint et le compte est bon. Non mais, je sais pas, il s'agirait juste de réfléchir un peu avant de faire des trucs. On dirait moi qui fume une clope et qui dit en même temps « Non mais faut trop que j'arrête de fumer. Hein. » Et sur ce, on passe à la deuxième citation. Donc deuxième citation. Grâce à notre génie scientifique et technologique, nous avons fait de ce monde un quartier. Et maintenant, par notre engagement moral et éthique, nous devons en faire une fraternité. Nous devons tous apprendre à vivre ensemble en tant que frères. Sinon, nous périrons ensemble en tant qu'idiots. Militant, scientifique ou les deux ?
Militant. C'est beau.
Militant. Est-ce que vous savez qui a dit cette phrase ou pas ? Quelqu'un de très très connu, un militant très très très
récent
très connu.
Ou pas ?
Non, non, pas très récent. On est sur du XXe siècle aussi.
Deuxième partie du XXe siècle ?
On est plutôt au milieu puisqu'il s'agit de Martin Luther King, donc qui a vécu entre 1929 et 1968. Et d'ailleurs, il y a 60 ans, quasiment jour pour jour, parce que c'était en mars, avait lieu le Bloody Sunday, qui devait être à l'origine une marche pour la lutte des droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis, organisée par Martin Luther King, donc, entre autres, et qui s'est transformée en Dimanche sanglant, donc, car la manifestation a été arrêtée par la police de façon très violente, à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Et 60 ans plus tard, il y a 3 mois, Donald Trump a mis fin par décret au financement des écoles publiques enseignant la théorie critique de la race, donc c'est-à-dire les écoles qui sensibilisent les élèves au racisme. Pourquoi avancer quand on peut reculer de 60 ans en arrière ? Bon, passons à la prochaine citation. Désolée, au final, je suis pas beaucoup plus joyeuse. Alors, troisième citation, à l'heure de l'urgence écologique, est-il encore souhaitable de développer de financer des infrastructures de recherche scientifique énergivores, coûteuses, délétères pour l'environnement et les populations, et aux retombées scientifiques incertaines ?
Moi, je sais.
Scientifique, scientifique.
Tu sais,
c'est qui?
Je pense. Oui. Bah, je vous laisse chercher.
Moi, je dirais scientifique.
Scientifique.
Scientifique, oui, mais pas que.
En rébellion.
Scientifique en rébellion. Ouais. Très, très fort, effectivement. Il s'agit d'une des premières phrases de la tribune qui conteste la création d'un méga collisionneur de particules par le CERN. CERN. Un centre international de recherche sur la physique des particules. Cette tribune, elle a été signée par 400 scientifiques et portée par Scientifiques en Rébellion, donc un collectif de scientifiques militants, le 25 février 2024. Et dans la tribune, les scientifiques alertent sur la construction coûteuse du tunnel de 90 km de circonférence qui nécessiterait l'excavation de 16 millions de tonnes de roches et qui pourrait émettre des millions de tonnes de CO2. Surtout que les retombées scientifiques sont jugées pour l'instant incertaine et que l'infrastructure est très énergivore. Ok, est-ce qu'on a le temps ou pas pour une dernière, Allez, une dernière. Donc, dernière citation. Selon moi, tout ce qui est nécessaire à la foi, c'est la conviction qu'en faisant de notre mieux, nous atteindrons nos objectifs, l'amélioration de l'humanité.
Militant.
Militant.
Ouais.
Non, pas militant.
Oh.
Non, pas les deux.
Scientifique.
Scientifique.
Qui parle de
comme quoi, ça peut être vite lié. Et c'est une femme qui a dit cette phrase. C'est Rosalind Franklin, est la scientifique qui a découvert la forme hélicoïdale de l'ADN et sa structure de manière générale. Avant que ses travaux ne soient volés par Watson et Crick, qui eux ont eu le prix Nobel. Donc elle n'était pas militante, alors que franchement ses raisons de militer étaient toutes trouvées. C'est-à-dire la lutte contre la domination masculine. Voilà, c'était mon cap super cap. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci
Chiara.
C'est trop bien.
Et bien, c'est déjà la fin de l'Happy Hour scientifique pour aujourd'hui. Et merci à nos invités Lucille Vessier et Armel Ronsillac. Et merci à toute la team Happy Hour avec nous aujourd'hui. Marion, Tiffany, Chiara, Cléo, Jade, Luna, il y en a beaucoup, Jocelyn, épée à la réelle. Et quant à vous, chères auditrices et auditeurs, prochain rendez-vous de l'Happy Hour scientifique le jeudi 1er mai 2025. Ou le 24 avril, 1er mai. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @hhscientifique, et à écouter toutes nos précédentes émissions en replay sur votre plateforme de streaming favorite si on ne se fait pas censurer par Spotify.
Bon, bah, il y a messieurs, hein. À la prochaine, et au revoir, et puis, bon retour, hein. Au revoir, messieurs.